Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leïla, fondatrice de la Mindful Academy, et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre sur la charge mentale. C'est un sujet qui est tellement lourd que je pense que un seul épisode du podcast ne serait pas suffisant pour tout traiter. Mais comme d'habitude, j'essaierai d'aller à l'essentiel pour vous donner quelques clés afin de vous aider à alléger votre charge mentale. Tout d'abord, c'est quoi la charge mentale? De quoi parle-t-on? Je pense que j'ai mis des années à comprendre ce que c'est, honnêtement, quand j'étais étudiante ou quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée. C'est une notion que, même si on me l'avait expliquée à ce moment-là, je pense que je ne l'aurais pas compris parce que j'aurais eu du mal à l'imaginer. Et je pense de la même manière que c'est une notion qui, tant qu'on la vit pas, tant qu'on la subit pas, tant qu'on l'expérimente pas, cela reste un concept complètement flou. Par contre, quand on la vit au quotidien, eh ben, je peux vous dire que c'est un concept qui est loin d'être théorique et qui reflète la réalité dans laquelle vivent beaucoup de personnes, et je pense particulièrement aux mamans, aux chefs d'entreprise et aux grands responsables. Si vous vous êtes déjà dit ou si vous avez pensé « je dois penser à tout », alors je vous dis bienvenue dans la sphère des personnes qui ont une charge mentale importante. Et comment cela se qualifie ou alors se mesure au quotidien, c'est lorsque vous avez constamment l'impression de devoir jongler avec tout dans votre vie. C'est lorsque vous avez une liste interminable de choses à faire qui vous trotte dans la tête jour et nuit. C'est le fait d'avoir un stress constant, d'essayer de tout garder ensemble, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos projets, de votre famille. C'est aussi ce cerveau qui continue de tourner, qui continue de travailler, qui continue de réfléchir alors que vous êtes peut-être censé vous reposer ou même lorsque vous pratiquez une activité de loisir. Mais une fois qu'on comprend ça, pourquoi c'est important d'en parler? Pourquoi c'est important d'en prendre soin? Pourquoi c'est important d'alléger cette charge mentale? Eh bien tout simplement parce que cette dernière a des conséquences terribles à la fois sur notre santé physique et notre santé psychologique. Alors sur le plan physique, cela peut se manifester par de la fatigue permanente, par des maux de tête, par des problèmes gastro-intestinaux. Et encore, je n'ai pas tout cité. Et sur le plan psychologique, cela peut entraîner de l'anxiété, cela peut entraîner, peut être la cause d'une dépression ou même un épuisement professionnel. Et on aura beau traiter ces symptômes par des médicaments, ces symptômes sont un signe de notre corps qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc la charge mentale est une des causes parfois. Alors autant résoudre le problème à la source, car on aura beau faire disparaître les symptômes avec des médicaments ou avec un changement ponctuel de notre manière de fonctionner, la réalité reviendra au galop et ces symptômes reviendront se manifester parce que le problème qui a causé tout ça eh bien, n'a pas été résolu. Donc le corps il va revenir frapper à notre porte avec des symptômes pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La charge mentale peut impacter notre qualité de vie, comment on vit au quotidien, peut impacter nos relations avec les autres, personnelles et professionnelles, notre productivité. Et les conséquences sont nombreuses. Et donc, si on se sent constamment débordé, il est peut-être important de prendre des mesures pour gérer cette charge mentale. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont je parle parce que c'est un sujet qui m'a affecté personnellement et qui m'affecte aussi personnellement, que je n'ai compris que lorsque je l'ai vécu, typiquement lorsque au travail j'ai commencé à avoir plus de responsabilités, à devoir gérer des équipes plus grandes, à devoir m'assurer que tout se passe pour le mieux, à gérer la multiplicité des interlocuteurs, la confrontation des différents besoins, la pression du résultat, et aussi lorsque je me suis mise à mon compte et que j'ai créé mon entreprise, la pluralité des choses à faire, et le fait justement de devoir penser à tout parce que sinon il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. De la même manière, lorsque je suis devenue maman, avec la responsabilité de répondre aux besoins de mon enfant et aussi de devoir coordonner avec les tâches ménagères, de devoir coordonner avec la charge mentale du travail. S'assurer que tous les rendez-vous sont bien planifiés. S'assurer que tout soit propre et bien ordonné. S'assurer que tout le monde ait à manger. Et en même temps, s'assurer que les projets avancent, que les équipes ont les moyens à disposition pour pouvoir produire, qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent monter en compétences, que les clients soient satisfaits, que s'il y a aussi les travaux à la maison, que ce soit bien géré, bien suivi. Et donc, c'est vraiment pas l'action de tout faire uniquement, mais de devoir penser à tout. C'est pour ça que j'insiste sur le devoir penser à tout. Parce qu'une erreur commune étant de se dire que si nous déléguons l'exécution, eh bien, il n'y a pas de charge mentale. La réalité est tout autre, parce que la responsabilité sur la réalisation de la tâche, nous allons la garder. Donc c'est notre nature de problème qui va se développer. Et lorsque je commençais à comprendre ce concept de charge mentale et à me dire « Tiens, comment je peux faire pour l'alléger ?» franchement, les solutions sur lesquelles je tombais, qui étaient toutes prêtes, qui étaient sur Internet, ne me convenaient pas. Et je trouvais ça pas très réaliste, à vrai dire. En fait, je trouvais ça plus facile à dire qu'à faire. Donc on a beau dire « il faut apprendre à dire non », ok soit, tu dis non, personne ne fait rien. Et franchement, je vois pas comment ça soulagerait ma charge mentale. Déléguer l'exécution, non plus. En fait, ça soulage ma charge, ça me permet de libérer du temps d'exécution, mais la responsabilité reste portée par moi. Donc ce que je me suis dit, c'est que dans cet épisode, ce que je vais faire, plutôt que de vous redire ça, c'est de vous donner des stratégies que j'ai essayées, des stratégies aussi que j'ai partagées aux personnes que je coach, et donc des stratégies qui ont fonctionné pour moi, qui ont fonctionné pour ces personnes, afin que vous puissiez ressortir avec des actions concrètes et facilement applicables. Alors la première et la plus désagréable, c'est une organisation en béton. Il est plus facile de se laisser dépasser, surmener, lorsqu'on n'est pas très organisé. Et par expérience, ce sont les moments où j'étais le plus désorganisé, où j'ai senti que j'avais une charge qui était plus importante. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que lorsque nous sommes désorganisés, nous avons peut-être l'impression qu'on a plus de choses à faire et de choses à gérer que la réalité. En fait, notre perception est biaisée parce qu'on a plusieurs pensées qui reviennent en boucle. Et tant que ces tâches ne sont pas planifiées, ne sont pas priorisées, elles vont continuer à nous trotter dans l'esprit parce qu'elles veulent être dans une case. Donc la première chose que je fais et que je conseille, c'est de lister. D'accord, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis surmenée, il y a plein de choses à gérer, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Et une fois que j'ai listé, peut-être aussi prendre du recul par rapport à ça et les prioriser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout faire maintenant? Est-ce que je ne suis pas un peu trop exigeante envers moi-même en essayant de tout faire? Est-ce vraiment à moi de faire tout ça? Ou est-ce qu'il y a des choses que je peux supprimer, des choses que je peux déléguer? C'est un instant assez désagréable, je vous l'accorde. J'ai eu du mal à me mettre à cet exercice parce que je ne suis pas de nature organisée. Ce n'est vraiment pas naturel pour moi. Mais je me force à le faire parce que c'est utile et parce que ça me permet de réduire ma charge mentale. Et une fois que je priorise, une fois que je liste tout, je n'ai plus ces questions de « Ah, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose ?» J'ai fait ça, mais en fait, c'était pas ça la priorité. Ça m'évite d'avoir des moments de culpabilité, des moments de rumination qui viennent rajouter une couche sur ma charge mentale. Donc lorsque je suis dans l'exécution, je sais que j'ai bien fait mon travail en amont de lister tout ce que j'ai à faire et de le prioriser de manière à ne pas culpabiliser si je ne fais pas les choses qui sont moins prioritaires sur ma liste. En fait, en faisant ça, je sors de l'agitation et je rentre dans l'action. Oui, mais Leïla, c'est quoi la différence? Alors, l'agitation. Quand je suis agitée, c'est que j'ai l'impression de faire des choses, mais finalement, je saute d'une chose à l'autre. Je suis active, en théorie, mais en principe, pas efficace. Parce que mon attention, elle est répartie sur plusieurs choses. Donc, je vais être amenée à faire les choses un peu à la va-vite, à oublier certaines choses, à mal les faire et donc à devoir les refaire et mettre plus de temps à les terminer, ce qui engendrera de la frustration. Être dans l'action, c'est avoir un objectif précis, une intention particulière et la dérouler en sachant que c'est là que mon attention doit être dirigée. Et c'est là où le travail de la pleine conscience, de la mindfulness, intervient. C'est dans ce discernement entre l'essentiel et le bruit, et aussi dans notre capacité à orienter notre cerveau vers l'essentiel en détectant les ruminations et en revenant à l'instant présent. Le deuxième point est de ne pas remplir, donc une fois que vous avez votre liste, qu'elle est priorisée, ne pas remplir votre agenda à plus de 80%. Honnêtement, moi j'applique le 70%. En fait, c'est créer de l'espace, créer un espace pour être. Ne considérez pas que vous avez une journée de 24 heures, mais considérez que vous avez une journée plus courte. Si par exemple, vous travaillez pendant 10 heures, eh bien faites comme si vous avez que 7 ou 8 heures devant vous. Cela va vous forcer à aller à l'essentiel. Je me rappelle très bien d'une amie avant que j'accouche de mon premier enfant qui me disait « Tu vas voir, quand tu vas avoir ton enfant, tu vas être d'une efficacité incroyable au travail parce qu'il faut que tu passes à autre chose et que tu sais que tu as un enfant qui t'attend à la maison. » Mais donc, lorsque j'ai accouché, je n'ai pas eu plus de 24 heures dans ma journée. C'était les mêmes journées que je devais remplir avec plus de tâches à faire. Et donc, l'organisation et l'efficacité étaient des concepts clés. Et c'est dans la contrainte que j'ai appris, c'est dans la contrainte que j'ai évolué, c'est dans la contrainte que justement j'ai mis en application toutes ces stratégies que je partage avec vous aujourd'hui. Et donc le troisième point, alors celui-là, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre pour moi. En fait, je me suis rendu compte, et aussi avec des échanges que j'ai eus autour de moi, que dans le podcast, sur les premiers épisodes et aussi les épisodes un peu plus récents, je vous montre une image qui est un peu lisse de qui je suis, qui est beaucoup plus dans la douceur. La réalité est que j'ai un côté yin, donc de la douceur, de l'envie de prendre soin de moi, de prendre soin des autres, de bienveillance, de calme, etc. Mais il y a aussi un côté action. Je suis aussi une femme d'action. Mais ce qui me permet d'avoir un peu ces deux choses-là, c'est aussi des process super standardisés. Je pense qu'il faut se simplifier la vie. Et je parle de process standardisés, je vais peut-être vous faire peur, mais ce que je mets derrière, c'est vraiment ne pas avoir à faire les choses deux fois. À titre d'exemple, j'ai créé des modèles standards de courses. J'ai créé des modèles standards de gestion d'une journée. Donc, comment se déroule une journée type chez moi? J'ai créé des modèles standards de listes de plats que je vais bien sûr faire tourner pour faire varier ce que je mange. Mais je ne vais pas avoir à chaque fois à aller chercher une nouvelle recette ou à me demander qu'est-ce que j'ai dans mon frigo. Ou aussi pour le ménage, j'ai une liste standard de ce qu'il faut faire tous les jours, ce qu'il faut faire le lundi, le mardi, le mercredi. Pour ne pas avoir chaque matin à me dire « Tiens, aujourd'hui, est-ce que je dois changer les draps? Je fais les vitres ?» Ce sont des choses qui paraissent banales, mais qui en réalité prennent une charge mentale importante. Le « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Je déteste cette phrase-là. Enfin, je détestais avant d'avoir mon processus standardisé avec la liste des plats que je fais tourner, que j'organise sur ma semaine, avec mes courses qui sont tout à fait adéquates à ma liste de plats, parce que je les testais et répétais, avec une liste claire de ce qu'il faut nettoyer dans la maison, que ce soit moi qui le fasse ou que je le délègue, au moins ce qu'il y a à faire est très clair, et même dans mon travail, je sais qu'il y a des heures que je consacre à des réunions, et un temps de production qui est programmé à la même heure et qui prend en compte en fait la gestion de mon énergie, c'est-à-dire qu'il y a certains moments qui sont par expérience plus adaptés à ce que je produise des choses, à ce que je réfléchisse et d'autres moments qui sont plus adaptés aux échanges. Mais tout cela s'est construit dans le temps. Donc oui, effectivement, c'était un effort de mettre ça en place, de le tester, de le réajuster, mais une fois que c'est en place, ça roule. Et ça me simplifie la vie. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres choses sur lesquelles je dois standardiser davantage et me simplifier davantage la vie, mais tout domaine où je mets des processus standardisés est quelque chose qui allège incroyablement ma charge mentale. Et c'est aussi quelque chose que je travaille avec les personnes que je coach. Parce qu'on a beau dire, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour soi. Si on standardise pas le reste, ce temps pour soi, on va jamais le trouver, on va jamais pouvoir le positionner. Et donc ça risque de créer plus de frustration qu'autre chose. Donc j'insiste sur ce point important, standardisez vos processus, simplifiez-vous la vie. Et n'hésitez pas à revoir la manière dont vous faites certaines choses. S'il ne serait pas plus intéressant de les faire différemment, de manière plus simplifiée. Si je reprends l'exemple typique des courses, lorsque j'ai fait ma liste, eh bien, je l'ai dans une application et à chaque fois que je fais mes courses, c'est un clic de bouton et c'est livré jusqu'à chez moi. Donc je ne me pose pas la tête de est-ce que c'est disponible, est-ce que c'est pas disponible, quand est-ce que je dois y aller, comment je case ça dans mes journées. J'ai réfléchi à tout ça une fois, je l'ai revu quelques fois parce que la première liste elle n'était pas parfaite. J'ajuste de temps à autre lorsque je modifie mes plats, mais franchement c'est tout. Alors oui, c'était un casse-tête la première fois que je l'ai mis en place. Oui, mon entourage s'est bien moqué de moi, mais n'empêche que ça m'a beaucoup simplifié la vie. Alors il reste encore deux stratégies que j'utilise et qui sont plus yin, qui sont plus dans la douceur. L'une, c'est de rester à l'écoute de notre corps. Parfois, eh bien, je me dis juste, en fait, je suis fatiguée et j'arrête tout. Et je communique autour de moi que je suis fatiguée et je passe la relève à quelqu'un d'autre. Cela peut être le temps de quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais juste se permettre cette pause-là, je pense que c'est important. Car il n'y a rien de plus important que notre santé au final. Et que si on la détériore, eh bien, on ne pourra rien faire de tout ça. Et enfin, la dernière chose, c'est de prendre du plaisir. Réintroduire le plaisir. En fait, l'une des choses que je faisais, c'est que je traçais un peu. Hein. C'était en mode la machine qui trace et qui doit faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et on perd goût aux choses. On se pose plus la question de pourquoi on les fait. Ça devient mécanique, ça devient plus par obligation. Alors qu'il y a tellement de choses qui ont été mises en place typiquement parce que ça devrait nous procurer du plaisir. Et donc, lorsque je suis dans des moments de plaisir, dans des moments de jeu, par exemple avec ma fille, ou dans un moment juste pour manger, prendre le temps de manger, de déguster un plat qui soit agréable, eh bien, le fait de prendre du plaisir pendant cet instant nous ressource. Et puisque j'ai ma petite liste qui est déjà organisée, que j'ai fait mes priorités, et que je sais que le temps que j'accorde à cette activité-là, je l'ai aussi planifié, je ne culpabilise pas de ne pas penser à autre chose. Je profite du présent, je profite de ce qui m'entoure, je profite de l'activité que je mène. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix et il n'y a pas meilleur antidote que d'apprendre à être présent dans ces activités-là pour réduire sa charge mentale. J'espère que ces 5 stratégies que j'utilise vont vous être utiles. J'espère que vous prenez soin de vous si vous êtes dans ces situations de charge mentale énorme. Que vous prenez de temps à autre le temps de vous féliciter et de voir tout ce que vous réalisez sans regarder uniquement ce que vous ne faites pas. Que vous vous félicitez de temps à autre de votre avancement et que vous êtes aussi votre meilleur ami qui écoute ce qui se passe en vous, qui écoute vos préoccupations et qui agit pour pouvoir résoudre les complications et alléger les charges portées quotidiennement. C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à le partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont une charge mentale importante, n'hésitez pas à leur partager cet épisode-là, ça pourrait peut-être les aider. Et cela pourra aussi alimenter une discussion entre vous sur quelle autre stratégie vous utilisez, lesquelles vous plaisent le plus. Et dans une logique d'échange et de co-construction, vous allez peut-être créer votre propre routine, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous convient, un peu comme ce que je fais avec les personnes que je coach. Et pour ma part, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre. Prenez soin de vous.